Bonjour, vous êtes bien sur Esprit Occitanie, c'est Patchwork. Patchwork, c'est une série de chroniques sur des sujets divers et vous allez le voir très variés. Nos animateurs vous parleront de droit, de finances, de littérature, de plantes et de tant d'autres choses encore. Bonne balade radiophonique.
Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir au sein de l'émission Patchwork dans la Casa de Ebel, saison 3. Pour cette nouvelle émission de la troisième saison de la Casa de Ebel, je poursuis ma bonne résolution du début de saison. C'est donc parti pour une chronique économico-financière. Voici le menu de cette nouvelle chronique de l'an 3 de la Casa de Ebel. En entrée, et de deux. Voyageons dans l'Empire du Milieu pour parler à nouveau immobilier et conglomérat. Le plat principal sera aujourd'hui consacré à la finance offshore. Enfin, pour le dessert, je vous propose un combo original, notaire et crypto-monnaie. Le promoteur immobilier chinois Fantasia Holdings est à son tour dans la tourmente après avoir manqué à ses obligations de paiement sur sa dette, alimentant ainsi les inquiétudes sur le secteur immobilier, secoué par les difficultés d'Evergrande, géant au bord de la faillite. Fantasia Holdings n'a pas pu régler lundi dernier les 205 millions de dollars, environ 170 millions d'euros pour nous Européens, dus à ses créanciers, et a annoncé le lendemain, l'entreprise l'a annoncé le lendemain. Cette annonce intervient alors que la société de gestion Country Garden Services Holdings a indiqué de son côté qu'une filiale de Fantasia n'avait pas remboursé un prêt de 700 millions de yuan, qui représente à peu près 93 millions d'euros. Tout ceci nous fait penser à un possible défaut de Fantasia. Les peurs de contagion à l'économie chinoise se renforcent depuis que Evergrande, le promoteur immobilier privé le plus endetté du monde, se débat avec une dette de quelque 260 milliards d'euros et se dirige vers une restructuration. Evergrande a suspendu le lundi 4 octobre sa cotation boursière à Hong Kong dans l'attente d'une annonce de, entre parenthèses, transaction majeure. Un média évoquant un plan du promoteur hongkongais Hobson Development Holdings pour le rachat de 51% de sa branche de services immobiliers pour plus de 40 milliards de dollars hongkongais, qui représente à peu près 4 milliards et demi d'euros. Donc, quand on regarde par rapport à la dette de 260 milliards d'euros, on se dit que les ordres de grandeur ne sont pas exactement les mêmes entre la dette et la valorisation. Même si cela ne concerne que la branche immobilière, on peut imaginer que la valorisation globale d'Evergrande est assez loin du montant total des dettes. Revenons à Fantasia, qui est un acteur du marché bien moins important qu'Evergrande. Vous avez vu, les ordres de grandeur sont assez différents. Mais ces difficultés mettent en lumière les inquiétudes des investisseurs concernant les informations financières des entreprises. Fitch, l'une des principales agences de notation au monde, avec Standard & Poor's et Moody's, a dégradé la note de Fantasia de B à triple C-. Une décision qui souligne la possibilité d'un défaut. Effectivement, c'est la définition du triple C-. L'agence de notation a ajouté dans un communiqué que, bien que les médias aient indiqué que Fantasia n'avait pas honoré un précédent paiement auprès de détenteurs d'obligations, cela ne semble pas avoir été mentionné dans les rapports financiers de la société. Oh, c'est assez rigolo. La façon de l'expliquer est assez rigolote. Fitch continue en expliquant que nous croyons que l'existence de ces obligations signifie que la situation de liquidité de l'entreprise pourrait être plus serrée que ce que nous avions prévu, écrit Fitch. En outre, cet incident jette un doute sur la transparence des informations financières de la société, estime la même agence de notation. Alors je dirais que c'est quand même un 12 euphémismes. Par ailleurs, et là on va pouvoir dire jamais 203, Standard & Poor's, autre agence de notation, a dégradé la note d'un autre promoteur chinois, donc là ça fait 3, Scenic Holdings, estimant que sa capacité de service de la dette est presque épuisée, pour ce qui veut dire qu'elle n'a plus du tout les moyens de payer les intérêts et encore moins potentiellement de rembourser le nominal des obligations souscrites par les investisseurs il y a quelques années. Donc Scenic n'a pas pu honorer les paiements d'intérêts, ce qui pourrait entraîner une accélération des remboursements des autres obligations de Scenic, hein, indiqué Standard & Poor's. La question est bêtement avec quel argent ? Le patron de Scenic, basé à Shanghai, a fait les gros titres de la presse le mois dernier, lorsqu'il a perdu plus d'un milliard de dollars dans l'effondrement du marché dû aux inquiétudes entourant Evergrande. La fortune de Zhang Yuanlin, qui est donc le patron de la société Scenic Holding, alors j'adore Scenic, le nom est assez génial, c'est S-I-N-I-C, bon c'est pas Q-U-E, mais ça aurait pu être le cas. Donc sa fortune est passée, selon Forbes, de 1,3 milliard de dollars à 250 millions de dollars le 20 septembre, lorsque son groupe a dû suspendre sa cotation, tiens c'est comme Evergrande, et également à la bourse de Hong Kong, après une chute de son action de 87%. Les autorités chinoises ont placé donc le secteur immobilier sous haute surveillance, les régulateurs ayant imposé l'an dernier, donc ça, quand même, ça fait un an qu'ils se posent des questions, 3 lignes rouges, ce sont des ratios prudentiels qui visent à réduire leur recours, donc le recours de ces sociétés à l'emprunt. On pourrait peut-être dire que les nuages s'amoncellent sur le marché immobilier chinois. En plat de résistance, finance offshore. Pandora Papers, plongée mondiale dans le secret de la finance offshore. Le consortium international de journalistes, ICIJ, a eu accès aux données confidentielles de 14 cabinets spécialisés dans les paradis fiscaux, révélant les secrets de notamment 300 responsables publics, 35 chefs d'État, 130 milliardaires, etc., etc., etc. L'affaire des Pandora Papers est un leak. C'est un terme qui désigne une fuite massive de données confidentielles. C'est le cauchemar des puissants qui recourent à des paradis fiscaux pour dissimuler leurs avoirs des regards indiscrets. Près de 12 millions de documents provenant des centres offshore les plus opaques de la planète ont été transmis par une source anonyme, on peut le comprendre, à un consortium de 150 médias internationaux. L'ICIJ et ses partenaires, donc les 150 médias internationaux, ont eu accès aux archives de ces cabinets, tous spécialistes de la création de sociétés anonymes. 14 maillons de la longue chaîne qui fait tourner le monde parallèle de l'offshore. Dans certains pays, cette pratique, on va dire pas vraiment de l'offshore, mais du non formel, est connue sous le nom d'économie informelle. C'est un monde où vous pouvez facilement l'imaginer, les règles classiques de l'économie, donc la transparence, l'équité, la responsabilité, n'ont pas vraiment cours. Les noms de ces cabinets, bien entendu, ne vous diront absolument rien, sauf si vous avez fait appel à l'un d'entre eux pour pouvoir cacher un petit peu d'argent. Par exemple, il y en a une qui s'appelle Trident Trust, l'autre Dadlow, Alcogal, Ilshin, etc., etc., etc. Il y en a donc 14. Pourtant, à l'image du célèbre cabinet Mossack Fonseca, donc tout le monde a en mémoire le nom, même s'ils ne savent pas exactement où c'est, qui fut au cœur du scandale des Panama Papers en 2016. Ces cabinets disséminés dans des paradis fiscaux aux secrets d'habitude bien gardés, alors, si on joue un rôle central dans ce système biaisé en faveur des plus aisés, à même de s'offrir pour quelques milliers d'euros la protection d'une société écran. Alors, paradis fiscaux, ce sont des endroits qui, de temps en temps, peuvent être agréables pour aller en vacances. Par exemple, Belize, donc en Amérique du Sud, en Amérique centrale, les îles Vierges britanniques, également les îles Vierges néerlandaises, Chypre, Dubaï, etc., etc., etc. À suivre. Enfin, et pour finir cette chronique automnale, parlons notariat et crypto-monnaie. Le congrès des notaires de France vient de s'achever sans manquer de proposer une solution originale en matière de transmission de crypto-monnaie. Ce nouvel actif se sécurise par un code secret chiffré, trop souvent oublié ou perdu. Pour les notaires, ils ont la solution. Et la solution se trouverait dans le recours au testament mystique. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que le testament mystique ? Question que je me suis également posée lorsque j'ai lu pour la première fois un article sur cette information. Alors, il s'agit d'un testament qui est remis dans une enveloppe fermée à un notaire en présence de deux témoins à deux notaires, conformément à l'article 976 du Code civil, qui stipule « Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, sera clos, cacheté et scellé. » Concrètement, le propriétaire des crypto-monnaies remettra ses dernières volontés, incluant le code crypté, bien entendu, il ne faut pas l'oublier, sinon ce serait dommage, sous pli fermé au notaire, qui le scelle, le conserve et en informe le fichier national des dernières volontés. Le portefeuille de crypto-monnaies peut ainsi être légalement transmis par voie successorale aux héritiers, tout en préservant le secret absolu. Autre avantage, en cas de perte ou d'oubli des codes, il sera toujours possible au disposant de retirer son testament pour récupérer ces informations. C'était la Casa de Hebel. Je vous remercie pour votre écoute. À la réalisation, Tiphaine Lemen.
Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver pour ces nouvelles chroniques de Maître Marie dans Patchwork. 34e chronique aujourd'hui, avec un thème un peu particulier. 18 novembre 2009, souvenez-vous, Helmut Fritz, chanteur alors célèbre auprès des jeunes et moins jeunes, mais pas encore tout à fait vieux de l'époque, Helmut Fritz soulevait déjà quelques débats par rapport à l'élection de Miss France. Et force est de constater qu'il visait juste ce cher Helmut, car tout le dilemme, toute la contradiction chez Miss France, c'est bien cela. Être belle façon « sois belle et tais-toi mais intelligente », défiler en bikini et être couverte de bijoux et de cadeaux mais parler de la crise, représenter une certaine image de la femme française, et c'est là que le bas blesse. Peut-être l'avez-vous lu dans la presse, mais coup de tonnerre au-dessus du diadème en ce mois d'octobre, l'association « Oser le féminisme », qui a le concours Miss France dans le collimateur depuis 2016 environ, a décidé de saisir les prud'hommes, estimant que ce concours sexiste violait le droit du travail. Les critères de recrutement des candidates, la taille, la situation maritale, la silhouette à l'élection de Miss France seraient discriminatoires. Trois femmes qui affirment avoir dû renoncer à se présenter au concours car elles ne satisfaisaient pas aux critères exigés par les organisateurs intentent également une action. La procédure intentée devant le Conseil des prud'hommes de Bobigny vise les sociétés Miss France et Endemol Productions. Selon Oser le féminisme, Endemol utilise des femmes pour fabriquer un programme audiovisuel extrêmement lucratif tout en bafouant le droit du travail. Alors, c'est très intéressant cette saisine parce que ça pose plein de questions concernant les femmes, mais aussi et surtout concernant le droit du travail. Si vous commencez à me connaître, vous savez que je me suis beaucoup amusée pour cette chronique et que ça m'a beaucoup intéressée. Posons d'abord le cadre juridique de ce concours. Miss France est un concours de beauté créé en 1920 par Maurice de Valève sous le titre « La plus belle femme de France ». Ce concours est diffusé à la télévision depuis 1987 et a inspiré la création de Miss Europe et de Mister France. La marque Miss France est aujourd'hui détenue par la société de production de films et de programmes pour la télévision Miss France SAS, aussi appelée Société Miss France. Cette société Miss France est une filiale du groupe audiovisuel Endemol Shine France, branche du groupe néerlandais Endemol Shine Group, et elle est chargée de la production et de l'organisation du concours, ainsi que de la sélection des Miss régionales depuis 2010. Est-ce que c'est devenu une grosse machine ? Non, à peine. Tout le monde se souvient de la célèbre dame au chapeau, Geneviève de Fontenay, qui a présidé à compter de 1981 le comité Miss France, association qui fournissait à la société Miss France les différentes Miss pour le concours national. Geneviève de Fontenay était par ailleurs salariée de la société Miss France, tout comme la Miss élue. Le statut de la Miss Élue, lui, ne fait pas de difficulté. Elle est salariée de la société Miss France avec un salaire mensuel compris entre 3 000 et 5 000 euros selon ses apparitions en public, outre nombreux avantages en nature tels que appartements de fonction, voitures, ordinateurs, cadeaux, prêts de vêtements, bref, tout cela jusqu'à l'élection suivante. Un peu comme un CDD, quoi. Mais un CDD, sympa le CDD. Mais cette Miss Élue est passée de l'autre côté du miroir. La question qui se pose, c'est quid des candidates ? Est-ce que tout le monde, n'importe quelle femme, peut concourir ? Vu les critères, non. Et c'est notamment, mais pas que, mais notamment ce qui coince pour le collectif Oser le féminisme. Pour devenir Miss France, il faut impérativement être de sexe féminin, être de nationalité française, de naissance ou par naturalisation, avoir un âge compris entre 18 et 24 ans à la date du 1er novembre de l'année en cours, être célibataire, mesurer au moins 1m70 et posséder un casier judiciaire vierge. Il ne faut pas avoir posé partiellement ou totalement dénudé ou promouvoir des activités érotiques, ah ben non. Être tatoué, sauf tatouage discret et ou avoir des piercings. Il ne faut pas être marié, paxé, divorcé ou veuve, bonjour la femme moderne. Avoir des enfants, avoir eu recours à la chirurgie plastique, excepté la chirurgie réparatrice, avoir associé son écharpe régionale à de la propagande politique ou religieuse. Des critères assez précis et restrictifs et donc par là même discriminants. Des critères donnant une certaine définition de la femme française, de la beauté, et disons-le, des critères pas forcément très en phase avec l'évolution de la société. Et lorsque Sylvie Tellier fustige les accusations de sexisme en disant « Les féministes se trompent de combat, depuis quelques années les candidates s'engagent dans de belles causes, elles agissent aussi pour améliorer la condition féminine », ça c'était dans une interview pour Libé en décembre 2016, on a peut-être envie un peu de lui dire que là, Sylvie, elle a perdu une occasion de se taire. Parce que le problème vient peut-être un peu justement du mélange des genres. On part d'un concours de beauté bien basique, un peu patriarcal, oui peut-être, mais qu'on ne peut finalement pas s'empêcher de saupoudrer d'un peu d'humanitaire, la guerre c'est mal, la paix dans le monde c'est important, d'un peu de culture, les candidates passent un test de culture G quand même, d'un peu de « elles ne sont pas que belles nos miss, elles sont intelligentes, elles ont des super jobs, nous sommes un tremplin professionnel, elles s'engagent ». Et c'est là que la pente devient glissante. Parce qu'on est passé de la plus belle femme de France à une sorte de définition de ce que doit être la femme française. Et c'était donc tendre vers les censeurs et la critique. Mais revenons-en à notre droit du travail. Les candidates au précieux diadème et à l'écharpe ne signent aucun contrat de travail avec les organisateurs, du concours. Elles candidatent. Mais leur relation avec Endemol est plus complexe que cela et doit bien s'analyser comme celle liant un salarié à son employeur, affirme notamment l'association Oser le féminisme, et qui s'appuie sur une jurisprudence de 2013 concernant le concours Mister France. Alors sur ce sujet d'ailleurs, j'ai assez peu goûté l'analyse de David Dégouille dans Marianne cette semaine, qui nous explique que le procédé juridique n'est qu'un moyen, la fin c'est d'enterrer ce que Oser le féminisme considère comme un symbole du sexisme et du patriarcat, il faut protéger contre elles-mêmes ces femmes qui se portent candidates au fameux concours, peu leur chaud à l'évidence que d'autres critères que le physique entrent en ligne de compte, comme la culture générale et une certaine éthique, et de continuer, je cite toujours, « il est plus facile de douter du libre arbitre de jeunes femmes qui s'inscrivent que de leur plein gré au concours de Miss France que d'aller soutenir celles qui sont contraintes par leur milieu familial ou par leur voisinage, de se voiler de la tête aux pieds, le voile c'est tellement mieux que le dégradant maillot de bain avec lequel les candidates au titre de Miss France défilent chaque année. » Fin de citation. Un bel exemple de mansplaining, j'ai envie de vous dire, à mon avis, où un homme nous explique encore que là n'est pas le problème et que les femmes n'ont encore pas compris ce qu'elles doivent défendre et comment elles doivent le défendre. Il nous dit également que, je cite, « l'avocate d'Oser le féminisme dit s'appuyer, et c'est un comble, sur une jurisprudence créée à propos du concours Mister France, car en 2013, les hommes auraient été aussi jugés sur leur plastique avantageuse sans que l'accusation de sexisme ait été brandie par qui que ce soit. » Fermez les guillemets. Alors, ce qu'il aurait peut-être été alors intéressant et pertinent de relever, ce n'est pas que des hommes aient accepté les pauvres sans rechigner, eux, d'être jugés sur leur plastique sans en faire un foin, mais c'est d'aller lire l'arrêt de 2013 et de voir ce que ces messieurs ont revendiqué en justice. Et ça devient très intéressant, parce qu'en fait, je vous renvoie notamment à une interview récente, ou moins récente d'ailleurs, de Christine Lagarde pour le Média Brut, et qui explique les rapports des hommes et des femmes par rapport aux demandes d'augmentation et à la présence des femmes dans les hautes fonctions, conseil d'administration et tout ça. Et quand vous verrez cette vidéo, vous penserez à ma chronique et vous vous direz que oui, effectivement, on retrouve bien ça déjà dans la jurisprudence Mister France de 2013. Mais je m'égare. Alors, qu'en est-il ? Eh bien, en fait, ce que le candidat à l'élection Mister France vient revendiquer dans cette procédure en 2013, c'est la qualité de salarié et de mannequin. Et on notera que cette qualité de salarié, avec toute conséquence de droit, les hommes soumis depuis bien moins longtemps à ce type de concours de beauté ont été bien plus prompts à la revendiquer et à la soulever. Et ça va donc bien plus loin qu'une histoire de plastique et de jugement esthétique et de tout ce qu'on veut, n'en déplaise à Monsieur David Dégouille. Donc venons-en aux faits. Et c'est donc un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 25 juin 2013. S'il y a des étudiants qui nous écoutent, c'est le pourvoi numéro 12-13-968. Et je vous renvoie à une précise, complète et parfaite analyse faite par maître Nelly Besset, qui est avocate au barreau des Pyrénées-Orientales, et que vous pouvez retrouver sur son site internet avec vraiment une analyse très très fine, dont j'ai repris quelques extraits, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Et en l'occurrence, à maître Nelly Besset. Donc, quelle est donc l'histoire ? Eh bien, le 28 mai 2003, Monsieur D a signé avec la société Glem, devenue TF1 Productions, un document intitulé « Règlement participant » pour participer au programme élection Mister France 2003. Et donc, le but de ce programme, c'était réunir 27 participants sélectionnés par le comité Mister France et la société Glem pour concourir à l'élection de Mister France 2003. Donc, Monsieur D va participer aux répétitions du 27 mai au 3 juin 2003, ainsi qu'au direct de l'émission, où il va remporter le titre et gagner un prix d'une valeur de 30 000 euros. Et après avoir remporté le concours, eh bien, il va saisir la juridiction prud'homale en demandant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, ainsi que le paiement d'indemnités. Et la Cour d'appel de Versailles, le 13 décembre 2011, va venir requalifier la relation entre les parties en contrat de travail et condamner TF1 Productions à verser des indemnités à M. D. TF1 forme un pourvoi aux cassations, et que nous dit la Cour de cassation ? Eh bien, elle rappelle son attendu aujourd'hui classique, selon lequel l'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de la qualification donnée par les parties, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. On rappelle en effet que le contrat de travail n'a pas de définition légale dans le code et qu'il appartient au juge d'en délimiter les contours. Trois conditions pour ça: lien de subordination, prestation de travail, rémunération. Alors, dans cette affaire, eh bien, les trois éléments mis en exergue par les juges du fond étaient bien caractérisés. Le lien de subordination, d'abord parce que les participants étaient placés sous l'autorité du producteur qui disposait d'un pouvoir de sanction. Ils s'engageaient à participer aux répétitions et à l'émission pendant 8 jours, acceptaient expressément de se conformer au choix du producteur sur les lieux de restauration d'hébergement, de répondre aux questions du présentateur, aux interviews, d'être filmés, d'effectuer les chorégraphies choisies par le producteur. Donc le lien de subordination était caractérisé. Ça vous rappelle pas nos candidates à Miss France, ça ? Filmé pendant un mois et demi de préparation, sur la plage de ceci, au restaurant de cela, logé à tel endroit, bref, toute ressemblance, bah oui, si, quand même. La prestation de travail, qui avait pour l'objet la production d'un bien ayant une valeur économique, prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne. Donc le contrat de travail était caractérisé. Là encore, on est dans le même cadre que le mois et demi de parenthèse là, avant l'élection de nos candidates Miss France. Et puis la rémunération, troisième critère, c'était tout le nœud du débat. Et en fait, déjà à l'époque, en 2013, la Cour de cassation étendait à l'émission de Mister France la jurisprudence qu'elle avait rendue avec les programmes de télé-réalité. Ça datait de 2009. Donc, il est bien caractérisé l'existence d'un contrat de travail. Il y avait eu l'adhésion du candidat au règlement d'un jeu télévisé, ce qui suppose que celui-ci l'accepte, accepte de se conformer aux directives de l'organisateur, ce qui est exclusif d'un lien de subordination du contrat de travail. On est un petit peu sur le contrat aléatoire. Mais ce que va vraiment considéré comme déterminant la Cour de cassation, eh bien, c'est le lien de subordination. qui devient l'élément fondamental pour caractériser l'existence d'un contrat de travail, sans doute parce que la doctrine considère que parmi les trois éléments cumulatifs caractérisant le contrat de travail, travail, rémunération, subordination, eh bien la subordination est le critère décisif. Donc, sur cette base, et si on en revient à nos misses et à l'action qui nous occupe, eh bien celles-ci devraient être protégées par un contrat de travail finalement dès qu'elles sont candidates, et donc être protégées par le Code du travail qui interdit, lui, dans un recrutement, tout critère lié aux mœurs, à l'âge, à la situation de famille ou à l'apparence physique, comme l'a expliqué à l'agence France Presse maître Violaine de Philippi Sabat, qui est l'avocate d'Oser le féminisme. Alors oui, clairement, ça va poser un petit problème sur l'organisation d'un concours de beauté, qui est donc censé à la base être fondé sur des critères nécessairement discriminatoires. Mais encore une fois, l'élection de Miss France, c'est plus celle qu'elle était à sa création en 1920. On n'est plus sur du concours one-shot, façon Miss Camping, qui dure 2 heures, vous avez gagné un bon d'achat ou un petit chèque. On est sur un concours télévisé, filmé avant, pendant, après, géré par une grosse société de production, avec des grosses visées lucratives, et qui permet à sa gagnante d'avoir un job grassement rémunéré pendant un an, et qu'on lui a clairement vendu comme un tremplin professionnel. Pourquoi cette chance, finalement, ne serait réservée qu'aux jeunes femmes répondant à certains critères restrictifs ? Pourquoi cet emploi, candidaté à cet emploi, ne serait-il pas ouvert à toutes et à tous, puisque nous n'en sommes plus à un simple concours de beauté, mais quasiment à une définition de ce que devrait être la femme française ? Et d'ailleurs, c'est quoi la femme française en 2021 ? On pourrait en faire tout un débat et une chronique. Donc une action donc qui, à mon sens, est cohérente et peut même avoir des chances de prospérer. Cohérente avec l'évolution de la société qui nous entoure et le fait qu'on remette notamment de plus en plus en cause certains signe de ce qu'on appelle le patriarcat, cohérente avec la jurisprudence rendue par la Cour de cassation et rendue notamment concernant Mister France, action qui peut avoir toute chance de prospérer si la justice trouve que le droit du travail doit s'appliquer. Et vous, qu'en pensez-vous ? Moi, je serais très contente que vous veniez me le dire sur la page Facebook d'Esprit Occitanie. Voilà. Venez débattre si le cœur vous en dit. Et je serais heureuse d'avoir vos avis et vos commentaires. La prochaine fois, on parlera droit du travail encore, je pense, oui, mais sur un tout autre sujet, pardon, et sous un angle tout différent. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau numéro du Patchwork sur Esprit Occitanie.
Chers auditeurs, bonjour. Monique Marc pour la rubrique « La lectrice d'Occitanie ». Je vais vous faire découvrir un nouveau chapitre du roman de Gilbert Noguez intitulé « Pas d'orchidée pour Miss Armagnac » aux éditions Cairn. Tu les as suivis depuis le pub irlandais. En passant près de la Smart, tu as craint qu'ils ne t'aient vu. Tu as jeté un regard discret. Puis tu as poursuivi vers le haut de la rue Baudin avant de stopper sur la place Puy de Motte. Tu as quitté prestement ton véhicule, tu n'as même pas pris le temps d'arrêter le moteur. Tu ne veux pas rater le moment où les deux tourtereaux sortiront de la Smart. Allez, vas-y, espèce de truie, montre-moi où tu crèches. Tu relèves le col de ton blouson et serres la fermeture éclair pour empêcher les gouttes de pluie de ruisseler dans ton cou. Suivre moi. Adriana avait saisi sur la plage arrière un minuscule sac en cuir rouge. Il ne devait, vu sa taille, contenir rien d'autre qu'un bâton de rouge à lèvres, un nécessaire à maquillage et un smartphone. Allez, bougez-toi, pas envie de me tremper. J'étais partagée, hésitant. Ce n'était pas dans mes habitudes de tromper ma petite amie. Mais l'idée de m'offrir un bon moment avec la troublante blonde venue des Balkans me titillait. « Être juste en face, look !» lança-t-elle tout en désignant la porte située à l'angle de la rue des Pénites en bleu. Je jetai un regard rapide vers la maison. La porte, au travers des fines gouttes de pluie et avec l'éclairage réduit de la rue, me sembla être verte. Après tout, quelle importance ? Je lorgnai d'un regard lubrique le corps ondulant d'Adriana qui, le sac rouge sur son épaule gauche, m'intima de la suivre en agitant sa main droite. Je n'avais pas prévu cette pluie et ma petite veste noire ne me protégeait pas beaucoup, même si je pris soin de la soulever et de recouvrir ma tête. « Montez premier étage, toi me suivre !» Adriana avait activé l'interrupteur et une lumière blafarde éclaira un vieil escalier avec sa rampe mi-bois, mi-fer forgé. Je laissai mes yeux profiter du spectacle. La blonde, vêtue d'une petite jupe courte, qui ne dissimulait que peu de choses de sa sculpturale anatomie, gravissait avec lenteur les marches. « Stairway to heaven !» dit-elle en se retournant vers moi qui, confus, inclina la tête, me contentant de regarder où je posais les pieds. À gauche, sur le palier, Adriana introduisit une clé dans la serrure de la porte. Un paillasson indiquait « Welcome » aux visiteurs. À tâtons, Adriana chercha l'interrupteur avant qu'une lumière bleutée inonde la pièce. Tu as suivi le déroulement de la scène, tu as profité d'un petit rehaut situé devant un immeuble, proche du studio de la fille. Tu l'as vu ouvrir la porte et disparaître avec le jeune homme dans l'immeuble. Tu as espéré que les fenêtres de l'appartement ne donnent pas sur la façade arrière de l'immeuble. La chance est de ton côté. Une lumière bleue apparaît au premier étage, à moins de 20 mètres de l'endroit d'où tu les observes. Voilà, on y est. Du regard, tu balayes la rue Baudin et la rue des Pénitents Bleus. De l'autre côté de la rue, un toit terrasse plonge directement sur la chambre de la fille. Parfait. Je le constatais tout de suite, l'appartement d'Adriana était certes modeste, mais décoré avec minutie, comme celui d'une adolescente attardée. Au mur, un poster de Kurt Cobain côtoyait toute une série de photos d'un enfant puniaisé à même le mur. Le coin cuisine était réduit au strict minimum. Un évier et une plaque chauffante avec deux feux, un placard combiné à un réfrigérateur recouvert de magnettes et de stickers. Deux tabourets hauts encadraient une minuscule planche de stratifié, faisant office de table de repas. Chambre d'étudiante, pensais-je, en laissant mes yeux se poser sur le corps de la jeune blonde. Elle avait laissé son petit sac de cuir et sa veste sur un fauteuil de style baroque, recouvert d'un tissu imitant le drapeau anglais. Adriana se tenait maintenant debout, au milieu de la pièce, les jambes écartées, cambrées, les mains posées sur ses hanches. « Alors, toi attendre quoi ?» lança-t-elle tout en pointant son index dans la direction d'un lit situé dans une petite alcôve face à la fenêtre sans rideau. « Tu n'avais pas parlé d'un dernier verre ?» fis-je ironiquement. Mon regard passa de l'alcôve au coin cuisine. « Whisky, vodka ou Armagnac ?» Et elle se dirigea vers le placard situé au-dessus du plan de travail. « Armagnac, ça va de soi !» dis-je en accompagnant mes paroles d'un pouce levé. Sur la pointe des pieds, Adriana tendit les bras pour atteindre une bouteille située en haut du placard. Mes yeux profitèrent d'une vision directe sur ses dessous. Elle me décrocha un petit sourire. « Ravissant, murmurai-je. « Tu dire quoi ?»« Rien. » Enfin, quoi, je disais que ce que je venais de voir était ravissant. Adriana minauda, consciente du trouble qu'elle opérait sur moi. Je l'observais verser l'alcool dans un verre peu adapté à ce type de breuvage. Toi vouloir enlever tout de suite ? Laisse-moi encore imaginer. Et je saisis le verre que m'avait tendu Adriana. Et on s'assoit où ? Ajoutai-je en balayant du regard l'ensemble de la pièce. « Toi le choix, sol, chaise, fauteuil, mais place que pour un. Dodo ?» Et n'attendant pas ma réponse, elle se dirigea vers le lit. « Va pour le lit. » La voiture. Tu as pris le temps de bien la garer, de la positionner vers le bas de la rue. Tu ouvres le coffre et tu saisis la sacoche en toile matelassée noire. Tu ne fermes pas ta voiture, laissant même les clés sur le contact. Il te faut envisager toutes les situations, surtout celle de devoir partir en toute précipitation. Lentement, tu descends la rue, te dirigeant vers la maison que tu viens de repérer. La pluie s'est calmée. La rue est déserte, seul un chien errant, le nez collé au sol, change de trottoir en t'apercevant. La porte de la maison, située en face de l'immeuble de la blonde, ne te résiste pas longtemps. Tu sais, en toute discrétion, crocheter la moindre serrure. Il te l'a bien appris et tu as bien retenu la leçon. L'entrée s'ouvre sur un profond couloir avec une rangée de boîtes à lettres sur le côté droit. Tu en comptes quatre en y pointant ta lampe torche. Au fond du corridor, deux portes se font face. Tu les ignores et te diriges vers l'escalier, observant avec minutie sa texture. La discrétion s'impose. Ne faire aucun bruit. Par chance, il est en dur et des plaques de marbre mordoré recouvrent chaque marche. À l'étage, tu observes avec calme l'espace. En maintenant ta lampe au plus près du sol, tu repères deux appartements. Le compte est bon. Aucun bruit. À cette heure, les habitants doivent dormir. Sur ta gauche, tu remarques une cinquième porte. Probablement celle de l'escalier menant à la terrasse. Pas besoin de la crocheter. Un simple verrou la maintient fermée de l'intérieur. Une douzaine de marches te mène directement sur le toit terrasse végétalisé. C'est un véritable paradis de fleurs, mais tu n'es pas là pour la cueillette. Tu éteins la lampe torche, il ne s'agit pas maintenant de te faire repérer par un insomniaque en manque de cigarettes. Adriana avait posé son verre vide à même le sol. Elle me repoussa délicatement sur le lit et je m'affalai sur un coussin rose. Je me laissai faire et trempai une fois de plus les lèvres dans mon armagnac. Ce n'était ni du cassaigne, ni du delort, mais l'alcool fit tout de même briller mes yeux. « Toi, laissez-moi faire, » dit-elle en se redressant. Je prenais de plus en plus de plaisir à écouter sa façon de parler le français, de n'utiliser que l'infinitif. Elle se dirigea vers un petit meuble en laqué blanc sur lequel un lecteur de CD trônait. « Moi, te faire connaître musique, pays à moi. » Elle piocha un CD dans un rayonnage vertical, typique d'un marchand suédois, avant de l'insérer dans le lecteur. « Toi, écoutez, Miesesina. Musique, Goran Bregovic. Très bon pour rythme. » Très bon pour amour. Les premiers trémolos de la voix du chanteur serbe retentirent dans la pièce. Un chœur féminin, auquel Adriana se joignit, reprit le refrain. La jeune fille se dirigea vers le lit en dansant en symbiose avec la musique. Adriana commença par déboutonner avec délicatesse et lenteur les quatre boutons de la chemisette en lamé jaune qui recouvrait sa poitrine et laissait son nombril apparent. Elle compléta ce geste en ondulant de manière lascive ses hanches. Je passai ma langue sur mes lèvres et je pris une nouvelle rasade d'armagnac. Je ne quittais plus la belle blonde aux yeux bleus. Adriana laissa choir la chemisette jaune sur le sol tout en posant ses mains sur sa poitrine avec une fausse pudeur, peu de circonstances. Elle se tourna lentement, face à la fenêtre, sans me quitter du regard, ses paupières papillonnées comme des clignotants. Un papillon étalait ses larges ailes sur mon omoplate droite. Tu es maintenant près de la balustrade en fer forgé. Pour plus de discrétion, tu as marché à quatre pattes. Tu as posé à plat la sacoche de toile, là, tout près de cette grande lessiveuse, qui récupère les eaux de pluie. Tu la remarques tout de suite. La fille se tient debout et fait face à la rue. Tu la vois retirer les mains qui masquent sa poitrine, les passer langoureusement dans son dos, dégrafer son soutien-gorge et révéler de jolis seins. Puis, lentement, ses mains glissent le long de son ventre, contournent ses hanches, avant de terminer sur ses fesses. « Vas-y, espèce de saltruie, continue ton numéro, chuchotes-tu. » Tu déglutis et passes ta main gantée sur ta bouche, tu essuies une coulée de salive. Chers auditeurs, si vous voulez connaître la suite, je vous invite à me retrouver la semaine prochaine. Et je vous rappelle que vous pouvez écouter tous les podcasts sur www.espritoccitanie.fr.